Bon, décortiquons un peu tout ça, si tu le veux bien. Imaginons un instant qu'on ait bâti une vie super paisible, genre vraiment prospère dans une grande métropole.
Ouais, le rêve de l'intégration parfaite, quoi.
Exactement. Le cercle social est solide, tout va bien. Et puis, du jour au lendemain, boum, tout bascule.
Ah, la chute brutale.
C'est ça. Le boulanger du quartier refuse de vendre son pain, les amis de longue date ferment leurs portes et le magistrat local regarde délibérément ailleurs quand tu te fais agresser en plein marché. La rue devient en fait un théâtre d'humiliation quotidienne.
C'est terrifiant quand on y pense. Et la cause de tout ça?
Eh ben, c'est juste le simple fait d'avoir arrêté d'assister à des dîners ou à des fêtes de quartier. C'est fou, non? On s'imagine toujours que les manuels de survie, c'est pour apprendre à trouver de l'eau en forêt ou faire du feu avec deux cailloux.
Alors que là, on parle d'une survie complètement différente.
Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand la survie dont on a un besoin vital, absolu, est purement psychologique et sociale?
Bah, c'est une question qui donne le vertige, honnêtement, parce que l'être humain est une créature fondamentalement grégaire. Dans la quasi-totalité des sociétés historiques, être banni du groupe, c'est pas juste passer un mauvais quart d'heure.
C'était une condamnation à mort, en gros.
Virtuellement, oui. L'exclusion, la perte totale de statut, ce sont des menaces existentielles. Ça détruit la psyché bien avant de détruire le corps physique.
Et c'est exactement le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger dans la façon dont un groupe minoritaire hyper spécifique a réussi à survivre à cette pression écrasante dans l'Antiquité, et surtout, comment ils ont fait pour ne pas perdre la raison.
Une vraie leçon de résilience pour le coup.
Totalement. Alors, notre point de départ pour cette analyse, c'est une conférence académique du docteur David De Silva. Elle s'intitule « The Cultural World of the New Testament ».
Une source fascinante.
Ah oui, très riche. Il y propose une lecture d'un texte ancien, la première épître de Pierre, ou 1 Pierre. Mais attention, pas comme un banal texte religieux qu'on lirait le dimanche matin.
Non, il l'analyse à travers le prisme implacable de la culture de l'honneur et de la honte de l'époque.
Et c'est là que ça devient pour moi vraiment passionnant.
C'est même crucial de poser ce cadre d'emblée, tu vois. Ce document, 1 Pierre, ça n'a absolument rien d'un traité philosophique rédigé bien au chaud dans une tour d'ivoire.
C'est pas de la grande théorie déconnectée de la réalité.
Pas du tout. C'est une réponse d'urgence sur le terrain. Les gens qui reçoivent cette lettre vivent une crise aiguë. Ils subissent des calomnies, une marginalisation sociale féroce. Et pour les plus vulnérables, je pense notamment aux esclaves, c'était des abus physiques réguliers.
Donc ce texte, c'est vraiment un manuel de gestion de crise.
C'est ça. C'est conçu spécifiquement pour empêcher toute une communauté de s'effondrer sous le poids de la haine populaire.
Mais attends, il y a un truc qui m'échappe dès le départ dans cette histoire.
Je t'écoute.
De nos jours, si un groupe de gens décide d'avoir des croyances un peu différentes ou de plus aller aux soirées mondaines, bon, on les trouve peut-être un peu bizarres.
Ouais, on les laisse dans leur coin.
Voilà, on ne cherche pas à détruire leur vie. Pourquoi l'Empire romain, qui était quand même hyper connu pour intégrer des centaines de cultes différents, pourquoi ils ont réagi avec une telle violence sociale contre ces premiers chrétiens?
C'est une excellente question.
Ils ne pouvaient pas juste appliquer la règle du vivre et laisser vivre.
Alors, c'est là qu'il faut vraiment faire un gros effort d'imagination pour se décentrer de notre vision moderne des choses. Dans le monde gréco-romain, la notion de religion privée, ça n'existe tout simplement pas.
Ah, la religion n'est pas une affaire personnelle.
Pas du tout. La religion, c'est l'infrastructure même de l'État. C'est ce qui maintient la fameuse paix romane, la Pax Romana. Cet ordre mondial reposait sur un équilibre extrêmement fragile.
D'accord, je vois le genre.
Le message de ces chrétiens était profondément subversif. Ils annonçaient l'arrivée d'un nouveau roi, d'un nouveau royaume, qui allait, à terme, remplacer l'ordre établi.
Donc, si je me mets à la place d'un magistrat romain, c'est pas juste un débat sur la nature de Dieu.
Exactement. Du point de vue d'un citoyen moyen ou du gouvernement, ce n'est pas une divergence théologique, c'est de la sédition politique pure et simple.
Une menace pour la sécurité nationale, en somme.
Complètement. C'est perçu comme un danger imminent pour la stabilité de l'Empire.
D'accord, je comprends mieux pourquoi les élites politiques flippaient. Mais la colère, elle ne venait pas que d'en haut. Elle venait des voisins, des gens du peuple, dans la rue. Pourquoi le citoyen lambda tenait-il tellement à humilier ces gens au quotidien?
Mais tout bêtement parce que ça touchait à leur survie, à eux. Dans l'Antiquité, les gens sont convaincus que la bienveillance des dieux est la seule chose qui garantit que la pluie va tomber sur les récoltes.
Aucune épidémie ne va pas décimer la ville.
C'est ça. Que la peste n'entrera pas, qu'un tremblement de terre ne va pas tout détruire, c'est un contrat social, mais aussi cosmique.
Ah, donc si une partie grandissante de la population décide soudainement de boycotter les dieux locaux.
Voilà, s'ils arrêtent de faire les sacrifices, la peur, c'est que les dieux se mettent en colère contre la communauté tout entière.
C'est de la culpabilité par association géographique, en fait.
Exactement. Donc l'hostilité des voisins, c'était pas juste de la méchanceté gratuite. Dans leur tête, c'était de la pure légitime défense face à une crise de santé publique imminente déclenchée par ces convertis.
Ce qui explique pourquoi le moindre événement du quotidien devenait un vrai champ de mine. Le docteur De Silva explique d'ailleurs que les chrétiens ont dû se retirer de quasiment tous les rassemblements sociaux.
Oui, ils ont dû s'isoler drastiquement.
Mais soyons très concrets. Refuser d'aller faire un grand sacrifice au temple, ça, je le comprends. Mais pourquoi fuir un simple dîner privé entre potes? Ne serait-ce pas plus stratégique de faire profil bas, d'aller dîner, de sourire poliment et de rentrer chez soi tranquille?
Mais c'est que faire profil bas, c'était structurellement impossible lors d'un repas dans l'Antiquité.
Ah bon? Pourquoi?
Parce que la salle à manger romaine, le triclinium, c'est pas un espace laïque comme nos salles à manger aujourd'hui. Un dîner commençait systématiquement par des libations.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on versait du vin en l'honneur des divinités protectrices de la maison, les lares. On offrait aussi souvent de l'encens sur un petit autel domestique.
Ah ouais, donc t'es coincé dès l'apéritif en fait.
C'est ça. Et même la nourriture posait problème. Manger de la viande à l'époque, ça signifiait presque toujours consommer une bête qui avait été sacrifiée à un dieu païen un peu plus tôt dans la journée.
Donc, participer à un simple repas entre amis, ça revenait à participer à un rituel païen.
Totalement. Et comme les chrétiens refusaient catégoriquement cette idolâtrie, ils désertaient tous ces espaces de sociabilité.
J'essaie d'imaginer la réaction de l'hôte romain qui invite son vieux collègue et qui essuie un refus catégorique pour des raisons qu'il trouve franchement absurdes. Ça devait être perçu comme l'affront ultime.
C'est clair. Le docteur De Silva souligne d'ailleurs que le texte biblique utilise un terme grec très précis pour décrire la réaction de ses voisins. Xénis dontai.
Xénis dontai. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ça décrit le sentiment profond d'être aliéné, d'être rendu étranger. Les voisins se sentaient personnellement rejetés. Ils voyaient leurs anciens compagnons adopter un comportement qu'ils jugeaient antisocial, refusant de participer au tissu même de la communauté.
Et face à cette déviance perçue, la société a dégainé son arme la plus redoutable.
L'arme de la honte, oui.
C'est un truc fou, ça. L'objectif de cette pression sociale, de cette honte publique, ce n'est pas de les tuer. C'est plutôt d'exercer un contrôle total.
Exactement. Le but, c'est de rendre leur quotidien tellement insupportable, étouffant, qu'ils finiront par craquer. L'idée, c'est de les forcer à se réhabiliter et à rentrer sagement dans le rang.
C'est ce qu'on appelle un mécanisme de contrôle de la déviance. Et c'est redoutable. Face à un tel mur de haine, l'instinct de survie le plus basique aurait été de tout abandonner.
C'est la solution de facilité, oui.
Alors comment l'auteur de cette lettre s'y prend-il pour convaincre ces gens de ne pas céder? Selon l'analyse qu'on étudie, la première étape de sa stratégie, c'est de détruire complètement la crédibilité de ce fameux tribunal de l'opinion publique.
Et c'est ce qui est fascinant ici. C'est le premier grand mouvement rhétorique de 1 Pierre. L'auteur ne leur dit pas juste « Allez, serrez les dents, ça va passer ».
Il va beaucoup plus loin.
Oui. Il procède à une inversion totale des valeurs. Il qualifie l'ancien mode de vie de ces chrétiens qui est, je le rappelle, toujours le mode de vie de leurs oppresseurs actuels. Il le qualifie de ténèbres. Il parle d'ignorance profonde, de futilité dictée par des passions aveugles.
D'accord, mais comment tu prouves un truc pareil? Dire, en gros, vous avez tous tort et nous sommes les seuls à avoir raison. C'est une affirmation audacieuse, pour ne pas dire un peu arrogante.
C'est vrai, ça peut paraître présomptueux. Mais pour comprendre la mécanique derrière cet argument, le docteur De Silva convoque la philosophie antique. Il cite le philosophe stoïcien Épictète, qui utilise une analogie vraiment parlante.
Ah, je suis tout ouïe.
Épictète demande d'imaginer qu'on présente un syllogisme parfait, une démonstration mathématique et logique absolument irréprochable.
Ok, on a notre vérité absolue.
Voilà. Et si un juge, par pure incompétence ou ignorance, déclare que cette démonstration est fausse, qui subit un vrai préjudice dans l'histoire?
Pas la démonstration, en tout cas.
Exactement. Est-ce que c'est la logique pure qui est abîmée? Non, c'est le juge qui vient d'exposer publiquement sa propre bêtise au grand jour.
Si je ramène ça à des termes plus modernes, c'est un peu comme se faire attaquer par une horde de trolls sur les réseaux sociaux.
C'est une très bonne comparaison.
Si on sait pertinemment que le système de ce réseau est régi par un algorithme cassé qui favorise la colère et la haine, le fait d'être condamné par cette foule ne veut pas dire qu'on a tort. Au contraire, être rejeté par un système défaillant devient presque la preuve qu'on a fait les bons choix.
L'analogie est très pertinente. Et l'auteur de 1 Pierre applique cette même mécanique de décrédibilisation du juge, non pas à un algorithme, mais à la figure de Jésus.
Comment ça ?
Il utilise des références à des textes très anciens, comme le prophète Isaïe et le psaume 118. Il décrit Jésus comme la pierre angulaire, la pierre parfaite que les bâtisseurs ont rejetée.
Et les bâtisseurs, ce sont...
Les bâtisseurs, ce sont les humains. C'est ce tribunal de l'opinion publique. S'ils rejettent la pierre parfaite, ce sont eux qui font erreur. Ce sont eux les incompétents.
La pierre, elle, ne change pas. Elle reste parfaite.
Exactement. L'auteur martèle que seul le jugement de Dieu, qui est le grand architecte ayant choisi cette pierre, possède une véritable valeur.
Bon, je dois quand même avouer que je reste un peu sceptique sur l'efficacité psychologique d'une telle méthode, si on l'applique à la vraie vie.
Ah oui. Qu'est-ce qui te chiffonne ?
Sur le papier, c'est brillant. Mais dans la réalité, tu te lèves tous les matins, tu te fais insulter en allant au marché, tu perds tes clients et tu dois te répéter en boucle « Non, non, ce sont eux qui sont d'ignorants, je suis la seule à comprendre la vérité. »
C'est lourd à porter.
C'est une gymnastique mentale qui demande une force colossale. Ça frôle presque le détachement total de la réalité. Comment un esclave, par exemple, qui subit la violence physique de son maître au quotidien, peut-il survivre avec juste cette idée philosophique en tête ?
C'est une objection tout à fait légitime. Et c'est précisément pour ça que l'auteur de la lettre ne laisse pas ce concept flotter dans l'abstraction des idées. Il le ramène vraiment dans la boue du quotidien. Surtout pour les esclaves.
Comment il s'y prend ?
Il faut rappeler que dans l'économie de l'Empire romain, un esclave n'est pas une personne au sens juridique. C'est un bien meuble.
Un objet, quoi.
C'est ça, un outil doué de parole. Il n'a absolument aucun droit face aux abus de son maître. Ce que fait l'auteur de 1 Pierre ici, c'est une manœuvre d'autonomisation psychologique qui est, franchement, phénoménale.
Il leur redonne du pouvoir sur leur propre esprit.
Exactement. Il dit à l'esclave chrétien, « Si tu es puni injustement, alors que ta conduite est bonne, c'est ton maître qui est pervers. » Il opère un transfert d'autorité morale.
C'est fort.
L'esclave, qui est pourtant la créature la plus méprisée de tout l'Empire, devient soudainement le seul gardien de sa propre conscience. Il devient capable de juger secrètement la faillite morale de son propre maître.
Waouh !
Il s'octroie une victoire morale interne que le maître ne pourra jamais lui enlever. Le corps est peut-être captif, mais l'esprit, lui, devient son propre tribunal privé. C'est exactement ça. Et ce concept résonne d'ailleurs beaucoup avec les écrits d'un autre philosophe, Sénèque, qui était un contemporain de cette époque.
Qu'est-ce qu'il disait, lui ?
Sénèque expliquait que face à des paroles blessantes ou des actes humiliants, la personne dotée de raison doit analyser froidement la situation. Si la critique est imméritée, alors ce n'est pas une insulte, c'est une injustice.
D'accord, la nuance est importante.
Très importante. Parce que par conséquent, ce n'est pas la victime de l'injustice qui devrait ressentir de la honte, c'est l'agresseur. Celui qui commet une injustice se dégrade lui-même publiquement.
C'est un moyen hyper puissant de retourner la honte contre celui qui attaque. Mais soyons honnêtes, même si on arrive à décrédibiliser mentalement celui qui nous frappe, le coup, il fait quand même atrocement mal.
Bien sûr, la douleur ne disparaît pas par magie.
La douleur du rejet, l'isolement social, ce sont des choses très concrètes qui usent à petit feu. Et ce que je trouve dingue dans l'analyse de De Silva, c'est que la lettre ne dit pas juste « ignorer la douleur ».
Non, elle fait quelque chose de beaucoup plus profond.
Elle opère un bouleversement complet de la notion même de souffrance. Elle la redéfinit pour en faire une sorte d'insigne d'honneur. C'est là que ça devient, pour moi, vraiment fascinant.
Et il faut bien mesurer l'ampleur de ce changement de paradigme pour l'époque. Dans la psychologie du monde antique, le cerveau des gens est câblé pour faire une équation très simple.
Laquelle ?
Si un malheur te frappe, c'est que les dieux sont en colère contre toi et te punissent. Point. La souffrance, c'est la preuve tangible, exposée aux yeux de tous, de ta défaveur divine et de ta propre culpabilité.
Ah donc, quand les voisins voient les chrétiens se faire marginaliser, cracher dessus, ils se disent naturellement « Bah regardez, nos dieux les écrasent, c'est bien la preuve par A plus B qu'ils ont tort. »
Logique implacable pour l'époque.
Et j'imagine que pour les chrétiens eux-mêmes, la tentation devait être immense de douter et de se dire « Ah, mince, peut-être que Dieu m'a vraiment abandonné. »
Exactement. C'était la crise existentielle assurée. Et c'est là que 1 Pierre vient totalement dynamiter cette équation. Le texte affirme avec force que cette souffrance n'est pas du tout une punition.
Mais c'est quoi alors ?
C'est le terrain d'épreuve. C'est ce qui valide l'authenticité de leur foi et de leur vertu. Comme le souligne très bien l'analyse, n'importe qui peut afficher de grands principes moraux quand le ciel est bleu et que ça ne coûte rien.
C'est sûr que c'est facile d'être sympa quand tout va bien.
Voilà. C'est dans le creuset de l'épreuve, quand maintenir ton intégrité te coûte ton statut social, ton emploi ou ta sécurité, que l'honneur véritable se forge.
Et le modèle ultime, pour justifier ce retournement, c'est bien évidemment la figure de Jésus lui-même.
Absolument. C'est le parangon de cette dynamique.
Le message central, c'est que la gloire ne s'obtient pas en fuyant la douleur. Elle se trouve de l'autre côté de la souffrance. Si leur leader a été humilié, rejeté et crucifié avant d'être glorifié, alors subir l'injustice devient la preuve ultime qu'on est sur le bon chemin.
C'est un retournement cognitif saisissant.
C'est clair. Au lieu de voir l'humiliation publique comme un échec cuisant, ils l'aperçoivent comme la confirmation irréfutable qu'ils font exactement la volonté de Dieu.
Et en plus de ça, l'auteur fait preuve d'une intelligence émotionnelle incroyable. Il valide leurs ressentis. Il ne leur jette pas de grandes phrases creuses en disant que la douleur est une illusion ou qu'ils doivent s'endurcir.
Il reconnaît qu'ils souffrent.
Oui. Il leur donne même un vocabulaire pour donner du sens à leur isolement. Il les appelle des « étrangers résidents » ou une diaspora. En fait, ils normalisent leur statut de marginaux en les inscrivant dans une histoire beaucoup plus ancienne et prestigieuse, celle d'Israël.
Le peuple d'Israël qui a connu l'exil sous les Babyloniens ou les Assyriens.
Exactement. Il leur dit en substance « Votre sentiment d'aliénation, là, dans votre propre ville, c'est normal. Vous marchez dans les pas d'une histoire bien plus grande que vous. »
C'est brillant.
Il va encore plus loin. Il donne un visage cosmique à toute cette hostilité ambiante. Il ne dit pas juste « vos voisins sont méchants ». Il parle d'un adversaire spirituel, un lion rugissant, qui chercherait à les dévorer à travers ses pressions.
Ce qui donne une dimension véritablement épique à ce qui, vu de l'extérieur, ressemble juste à une misérable mise au banc de la société. On passe d'un petit groupe d'exclus pathétiques à une véritable armée de résistance spirituelle.
C'est un changement de statut mental majeur.
Mais bon, une fois qu'on a refondé toute sa mentalité dans sa chambre le matin, il faut bien redescendre dans la rue. Et là, c'est le choc du réel. Comment ces personnes devaient-elles interagir, très concrètement, avec leurs oppresseurs ?
C'est là qu'on touche aux règles sociales de l'époque. L'interaction sociale, dans le monde méditerranéen, était régie par le principe très strict du défi-riposte.
Le challenge-riposte, c'est ça.
Voilà. C'est un jeu à somme nulle. Si quelqu'un attaque mon honneur publiquement, je suis dans l'obligation sociale absolue de riposter.
Sous peine de passer pour un lâche.
Exactement. Et généralement, on riposte par une insulte encore plus cinglante ou carrément par la violence physique, pour restaurer son statut. Ne pas riposter, c'était accepter la honte et valider l'insulte.
Et j'imagine que c'est précisément sur ce point que l'approche de la lettre devient totalement contre-intuitive pour l'époque.
Complètement en contre-courant. L'auteur interdit formellement à ses chrétiens de répondre à l'insulte par l'insulte.
Interdit.
Oui, il leur dit de ne surtout pas rendre le mal pour le mal. La riposte chrétienne, si on peut l'appeler ainsi, consiste à briser net ce cycle destructeur en rendant le bien pour le mal.
C'est le principe de tendre l'autre joue.
C'est ça. On leur demande d'être des membres modèles de la société. Ils doivent être irréprochables dans leur conduite civile, infiniment respectueux et généreux, même envers ceux qui les crachent dessus.
C'est d'une difficulté extrême.
Oui, mais l'objectif tactique derrière ça, c'est de créer une dissonance cognitive massive chez leurs détracteurs. Il s'agit de faire taire les calomnies non pas en hurlant plus fort sur la place publique, mais par le poids écrasant d'une intégrité silencieuse.
J'adore cette idée. C'est exactement la mécanique d'une prise d'arts martiaux comme l'aïkido.
Ah, l'aïkido, oui, très bonne image.
Au lieu d'opposer ta propre force brute au coup de poing de ton adversaire, ce qui va juste créer un gros choc, tu utilises son propre élan, son agressivité, pour le déséquilibrer. En refusant de jouer à ce jeu toxique du défi et de la riposte, tu prives l'agresseur de sa cible.
Mais ça le rend fou.
C'est ça, Fa. Opposer une douceur inébranlable à une haine viscérale, c'est finalement extrêmement déstabilisant pour celui qui attaque.
L'image martiale est très juste. Et d'ailleurs, le texte antique y ajoute une dimension rhétorique assez pointue. Il dit qu'il devait toujours être prêt à fournir une apologia.
Alors là, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, le mot « apologie » en français, ou « apologie » en anglais, ça fait souvent penser au fait de s'excuser, de demander pardon pour une faute.
Ah oui, c'est tout le contraire dans le monde antique.
Donc ça voulait dire quoi ?
Dans le système juridique gréco-romain, une apologia, c'est une défense vigoureuse, extrêmement raisonnée et bien articulée de sa propre innocence. Pensez à l'apologie de Socrate, par exemple.
D'accord, c'est un plaidoyer.
Voilà. L'auteur leur demande d'être capable d'expliquer lucidement les raisons profondes de leur espérance et de ce nouveau comportement bizarre. Mais, et c'est là que ta stratégie d'aïkido opère à plein régime, cette défense verbale devait impérativement être prononcée avec douceur et respect.
Sans animosité.
Sans aucune arrogance. Pas comme quelqu'un qui se croit moralement supérieur, mais de façon humble.
N'empêche, maintenir une telle posture d'aïkido social du matin au soir, ça doit drainer une énergie folle. Face à une société entière qui te méprise, tu ne peux pas tenir ça tout seul très longtemps.
Non, c'est psychologiquement insoutenable, seul.
Le besoin d'approbation et d'appartenance qu'on a évoqué au début finit toujours par se réveiller. Si le monde extérieur a complètement coupé les ponts avec toi, comment tu pallies ce vide béant ?
Eh bien, la survie passait obligatoirement par la création d'un écosystème de remplacement. C'est ce que les sociologues, comme le docteur De Silva, appellent une matrice sociale.
Une nouvelle tribu, en gros ?
Exactement. L'honneur, par définition, ça n'existe que s'il y a un groupe en face pour le reconnaître et te le refléter. Puisque la société romaine retirait tout honneur à ses convertis, la nouvelle communauté, l'Église, devait compenser ça massivement en interne.
Et comment il s'y prenait concrètement ?
L'auteur insiste lourdement sur l'amour fraternel sincère, sans hypocrisie. Il prône la pratique d'une hospitalité inconditionnelle, parce que les gens perdaient leur réseau d'entraide, et une solidarité sans faille. Il devait devenir un véritable filet de sécurité à la fois affectif et matériel, les uns pour les autres.
C'est pour ça que le texte utilise des mots très chargés émotionnellement pour cimenter cette nouvelle famille. Il prend des gens qui sont considérés comme des parias absolus dehors et il leur dit « Avant, vous n'étiez pas un peuple, mais aujourd'hui, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. »
L'injection de dignité est massive, oui.
C'est un antidote puissant contre la honte. Mais ce qui m'a encore plus frappé dans l'analyse de cette nouvelle matrice sociale, c'est la façon dont elle a complètement bouleversé la structure familiale traditionnelle de l'époque.
Ah oui, c'est un aspect fondamental pour comprendre la radicalité de cette communauté chrétienne primitive. Il faut d'abord regarder la structure du foyer romain typique.
Qui était très rigide, j'imagine.
Extrêmement rigide. Elle est régie par ce qu'on appelle la patria potestas, l'autorité absolue du père de famille.
Et ça a impliqué quoi au quotidien ?
Ça veut dire que la loi romaine donnait au maître de maison un pouvoir littéral de vie ou de mort sur ses enfants, sur ses esclaves et bien sûr une autorité incontestable sur sa femme. C'était l'incarnation pure d'une hiérarchie stricte, violente et immuable.
Et au milieu de tout ça, le texte de 1 Pierre arrive avec un message totalement lunaire concernant les maris, c'est ça ?
C'est ça. Le texte demande explicitement aux maris chrétiens d'accorder de l'honneur à leurs femmes. Et attention, de les considérer non pas comme des subordonnées de seconde zone, mais comme des co-héritières de la grâce.
Des égales devant Dieu, en somme.
Exactement. Demander aux détenteurs de cette redoutable patria potestas de regarder sa femme comme une égale sur le plan spirituel, comme une sœur qui va hériter au même titre que lui, c'est créer une faille tectonique gigantesque dans la hiérarchie gréco-romaine.
Ça devait choquer tout le monde à l'extérieur.
Certainement. Mais en interne, cette égalité de valeur insufflait une cohésion inédite qui était absolument indispensable pour résister aux tempêtes extérieures qu'il traversait.
C'est fascinant. On vient d'analyser des concepts qui ont plus de 2 millénaires, des trucs profondément ancrés dans un monde de dieux païens, de temples, de sacrifices et d'empereurs. C'est une plongée historique incroyable.
Une vraie machine à remonter le temps.
Mais, et c'est là que je veux en venir, cette mécanique implacable du rejet, du contrôle social et de la résilience, est-ce qu'elle ne résonne pas bien au-delà de l'Antiquité, Sam ?
C'est la conclusion majeure du docteur De Silva, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce manuel de survie dont on parle, 1 Pierre, ce n'est pas juste un artefact poussiéreux dans un musée de théologie.
Ces dynamiques sont toujours d'actualité.
Totalement. Elles sont vécues aujourd'hui, au quotidien, par une part non négligeable de la population mondiale. Si l'on observe la situation tragique de nombreuses minorités en Inde, en Chine, en Indonésie ou encore au Nigeria, les méthodes de contrôle social qu'ils subissent restent remarquablement similaires à celles du 1er siècle.
C'est-à-dire ?
Les mêmes pressions ?
Les mêmes ?
Perte soudaine d'emploi, exclusion brutale des réseaux économiques locaux, chantage et pression familiale intense, sans oublier évidemment les violences physiques directes. La vieille technique romaine du contrôle de la déviance par la honte et l'exclusion n'a pas pris une seule ride.
C'est glaçant de voir que les méthodes de harcèlement social n'ont pas évolué. Et du coup, comment l'analyse de ce vieux texte antique peut-elle éclairer notre façon, à nous aujourd'hui, de réagir face à ces situations modernes ?
L'analyse suggère un rôle très concret, très pratique, pour tous ceux qui ont le privilège d'observer ces dynamiques de l'extérieur, en sécurité.
Quel rôle, enfin...
Devenir une voix de l'honneur.
Une voix de l'honneur, c'est beau. Comment on fait ça?
Lorsqu'un groupe est violemment dépossédé de sa dignité par sa culture dominante, l'intervention consiste à lui renvoyer, comme un miroir, cette valeur qu'on essaie de lui arracher.
D'accord, agir comme un contrepoids.
Exactement. Ça passe par un soutien diplomatique fort pour nommer l'injustice à voix haute, ne pas la cacher. Ça demande aussi un soutien matériel concret quand ces familles perdent tous leurs moyens de subsistance à cause de la marginalisation.
Et au niveau psychologique?
C'est un soutien moral indispensable pour valider publiquement leur résilience. Il s'agit, au fond, de s'insérer de l'extérieur dans leur matrice sociale pour leur prouver que le tribunal de l'opinion locale, celui qui les écrase, n'a pas le monopole de la vérité sur leurs valeurs.
C'est une réflexion tellement révélatrice sur le pouvoir du groupe sur l'individu. Et d'ailleurs, ça m'amène à une question beaucoup plus intime, presque existentielle, pour clôturer cette analyse.
Dis-moi.
On a bien vu tout au long de cette discussion que notre sens de l'honneur, de la honte et même la perception de notre propre valeur, tout ça ne flotte pas de manière isolée dans notre esprit. Ça dépend viscéralement d'un groupe de référence autour de nous qui nous renvoie ces signaux.
On a besoin du regard des autres, c'est certain.
Mais du coup, si cette boussole interne est à ce point dépendante des autres, qu'est-ce qui se passe quand la culture qui nous entoure décide soudainement, presque du jour au lendemain, de redéfinir totalement ce qui est vertueux et ce qui est honteux?
Ah, c'est la question qui tue.
Oui. Face à une inversion brutale des normes de notre propre société, est-ce qu'on est réellement capable, en tant qu'individu, de choisir lucidement un nouveau tribunal d'opinion pour y puiser notre résilience? Ou bien est-ce que l'être humain est secrètement condamné à renier ses propres convictions juste pour éviter la douleur foudroyante de l'exclusion?
C'est une vraie question.
Une interrogation qui donne à réfléchir et qui prouve, en tout cas, que les mécanismes de survie de l'Antiquité n'ont clairement pas fini de nous hanter.